Ursule Mirouette, première partie, deuxième fichier. Le docteur reçut assez froidement sa petite nièce par la ligne maternelle, dont le mari venait d'acheter le greffe de la justice de paix, et qui, les premiers, se hasardèrent à lui parler de leur position difficile. Massin et sa femme n'étaient pas riches. Le père de Massin, serrurier à Montargis, obligé de prendre des arrangements avec ses créanciers, travaillait à 67 ans comme un jeune homme et ne laisserait rien. Le père de Madame Massin, Levrault Minoret, venait de mourir à Montereau des suites de la bataille, en voyant sa ferme incendiée, ses champs ruinés et ses bestiaux dévorés. Nous n'aurons rien de ton grand-oncle, dit Massin à sa femme, déjà grosse de son second enfant. Le docteur leur donna secrètement 10 000 francs, avec lesquels le greffier de la justice de paix, ami du notaire et de l'huissier de Nemours, commença l'usure et mena si rondement les paysans des environs qu'en ce moment Goupil lui connaissait environ 80 000 francs de capitaux inédits. Quant à son autre nièce, le docteur fit avoir, par ses relations à Paris, la perception de Nemours à Crémière et fournit le cautionnement. Quoique Minoret Levrault n'eût besoin de rien, Zélie, jalouse des libéralités de l'oncle envers ses deux nièces, lui présenta son fils, alors âgé de 10 ans, qu'elle allait envoyer dans un collège de Paris où, dit-elle, les éducations coûtaient bien cher. Médecin de Fontanes, le docteur obtint une demi-bourse au collège Louis-le-Grand pour son petit-neveu qui fut mis en 4e. Crémière, Massin et Minoret Levrault, gens excessivement communs, furent jugés sans appel par le docteur dès les premiers mois pendant lesquels ils essayèrent d'entourer moins l'oncle que la succession. Les gens conduits par l'instinct ont ce désavantage sur les gens à idées qu'ils sont promptement devinés. Les inspirations de l'instinct sont trop naturelles et s'adressent trop aux yeux pour ne pas être aperçues aussitôt. Tandis que, pour être pénétrées, les conceptions de l'esprit exigent une intelligence égale de part et d'autre. Après avoir acheté la reconnaissance de ses héritiers et leur avoir, en quelque sorte, clos la bouche, le rusé docteur prétexta de ses occupations, de ses habitudes et des soins qu'exigeait la petite Ursule pour ne point les recevoir, sans toutefois leur fermer sa maison. Il aimait à dîner seul, il se couchait et se levait tard, il était venu dans son pays natal pour y trouver le repos et la solitude. Ses caprices d'un vieillard parurent assez naturels, et ses héritiers se contentèrent de lui faire, le dimanche, entre 1 h et 4 h, des visites hebdomadaires auxquelles il essaya de mettre fin en leur disant « Ne venez me voir que quand vous aurez besoin de moi ». Le docteur, sans refuser de donner des consultations dans les cas graves, surtout aux indigents, ne voulut point être médecin du petit hospice de Nemours et déclara qu'il n'exercerait plus sa profession. « J'ai assez tué de monde !» dit-il en riant au curé Chaperon, qui, le sachant bienfaisant, plaidait pour les pauvres. « C'est un fameux original !» Ce mot, dit sur le docteur Minoret, fut l'innocente vengeance des amours propres froissés. Car le médecin se composa une société de personnages qui méritent d'être mis en regard des héritiers. Or, ceux des bourgeois qui se croyaient dignes de grossir la cour d'un homme à cordon noir conservèrent contre le docteur et ses privilégiés un ferment de jalousie qui malheureusement eut son action. Par une bizarrerie qu'expliquerait le proverbe « les extrêmes se touchent », ce docteur matérialiste et le curé de Nemours furent très promptement amis. Le vieillard aimait beaucoup le tric-trac, jeu favori des gens d'église, et l'abbé Chaperon était de la force du médecin. Le jeu fut donc un premier lien entre eux. Puis Minoret était charitable, et le curé de Nemours était le fénelon du Gâtinais. Tous deux, ils avaient une instruction variée, l'homme de Dieu pouvait donc seul dans tout Nemours, comprendre la thé. Pour pouvoir disputer, deux hommes doivent d'abord se comprendre. Quel plaisir goûte-t-on d'adresser des mots piquants à quelqu'un qui ne les sent pas? Le médecin et ce prêtre avaient trop de bon goût. Ils avaient vu trop bonne compagnie pour ne pas en pratiquer les préceptes. Ils purent alors se faire cette petite guerre si nécessaire à la conversation. Ils haïssaient l'un et l'autre leurs opinions, mais ils estimaient leur caractère. Si de semblables contrastes, si de telles sympathies ne sont pas les éléments de la vie intime, ne faudrait-il pas désespérer de la société qui, surtout en France, exige un antagonisme quelconque? C'est du choc des caractères et non de la lutte des idées que naissent les antipathies. L'abbé Chaperon fut donc le premier ami du docteur à Nemours. Cet ecclésiastique, alors âgé de 60 ans, était curé de Nemours depuis le rétablissement du culte catholique. Par attachement pour son troupeau, il avait refusé le vicariat du diocèse. Si les indifférents en matière de religion lui en savaient gré, les fidèles l'en aimaient davantage. Ainsi vénéré de ses ouailles, estimé par la population, le curé faisait le bien sans s'enquérir des opinions religieuses des malheureux. Son presbytère, à peine garni du mobilier nécessaire aux plus stricts besoins de la vie, était froid et dénué comme le logis d'un avare. L'avarice et la charité se trahissent par des effets semblables. La charité ne se fait-elle pas dans le ciel le trésor que se fait l'avare sur terre? L'abbé Chaperon disputait avec sa servante sur sa dépense avec plus de rigueur que Gobseck avec la sienne, si toutefois ce fameux juif a jamais eu de servante. Le bon prêtre vendait souvent les boucles d'argent de ses souliers et de sa culotte pour en donner le prix à des pauvres qui le surprenaient sans le sou. En le voyant sortir de son église, les oreilles de sa culotte nouées dans les boutonnières, les dévotes de la ville allaient alors chercher les boucles du curé chez l'horloger bijoutier de Nemours et grondaient leur pasteur en les lui rapportant. Il ne s'achetait jamais de linge ni d'habits et portait ses vêtements jusqu'à ce qu'ils ne fussent plus de mise. Son linge épais de reprise lui marquait la peau comme un cilice. Madame de Portenduère, ou de bonnes âmes, s'entendait alors avec la gouvernante pour lui remplacer, pendant son sommeil, le linge ou les habits vieux par des neufs. Et le curé ne s'apercevait pas toujours immédiatement de l'échange. Il mangeait chez lui dans l'étain et avec des couverts de fer battus. Quand il recevait ses desservants, et les curés, aux jours de solennité, qui sont une charge pour les curés de canton, il empruntait l'argenterie et le linge de table de son ami la thé. « Mon argenterie fait son salut !» disait alors le docteur. Ces belles actions, tôt ou tard découvertes, et toujours accompagnées d'encouragements spirituels, s'accomplissaient avec une naïveté sublime. Cette vie était d'autant plus méritoire que l'abbé Chaperon possédait une érudition aussi vaste que variée et de précieuses facultés. Chez lui, la finesse et la grâce, inséparables compagnes de la simplicité, rehaussaient une élocution digne d'un prélat. Ses manières, son caractère et ses mœurs donnaient à son commerce la saveur exquise de tout ce qui, dans l'intelligence, est à la fois spirituel et candide. Ami de la plaisanterie, il n'était jamais prêtre dans un salon. Jusqu'à l'arrivée du docteur Minoret, le bonhomme laissa ses lumières sous le boisseau sans regret. Mais peut-être lui sut-il gré de les utiliser. Riche d'une assez belle bibliothèque et de 2000 livres de rente quand il vint à Nemours, le curé ne possédait plus, en 1829, que les revenus de sa cure, presque entièrement distribués chaque année. D'excellents conseils dans les affaires délicates ou dans les malheurs, plus d'une personne qui n'allait point à l'église y chercher des consolations, allait au presbytère y chercher des avis. Pour achever ce portrait moral, il suffira d'une petite anecdote. Des paysans, rarement, il est vrai, mais enfin de mauvaises gens, se disaient poursuivis ou se faisaient poursuivre fictivement pour stimuler la bienfaisance de l'abbé Chaperon. Ils trompaient leurs femmes, qui, voyant leur maison menacée d'expropriation et leurs vaches saisies, trompaient par leurs innocentes larmes le pauvre curé, qui leur trouvait alors les 700 ou 800 francs demandés, avec lesquels le paysan achetait un lopin de terre. Quand de pieux personnages, des fabriciens, démontrèrent la fraude à l'abbé Chaperon en le priant de les consulter pour ne pas être victime de la cupidité, il leur dit « Peut-être ces gens auraient-ils commis quelque chose de blâmable pour avoir leur arpent de terre, et n'est-ce pas encore faire le bien que d'empêcher le mal ?» On aimera peut-être à trouver ici l'esquisse de cette figure, remarquable en ce que les sciences et les lettres avaient passé dans ce cœur et dans cette forte tête sans y rien corrompre. À 60 ans, l'abbé Chaperon avait les cheveux entièrement blancs, tant il éprouvait vivement les malheurs d'autrui, tant aussi les événements de la Révolution avaient agi sur lui. 2 fois incarcéré pour 2 refus de serment, 2 fois, selon son expression, il avait dit son « in manus ». Il était de moyenne taille, ni gras ni maigre. Son visage, très ridé, très creusé, sans couleur, occupait tout d'abord le regard par la tranquillité profonde des lignes et par la pureté des contours qui semblaient bordés de lumière. Le visage d'un homme chaste a je ne sais quoi de radieux. Des yeux bruns, à prunelles vives, animaient ce visage irrégulier surmonté d'un front vaste. Son regard exerçait un empire explicable par une douceur qui n'excluait pas la force. Les arcades de ses yeux formaient comme 2 voûtes ombragées de gros sourcils grisonnants qui ne faisaient point peur. Comme il avait perdu beaucoup de ses dents, sa bouche était déformée et ses joues rentraient. Mais cette destruction ne manquait pas de grâce, et ses rides, pleines d'aménité, semblaient vous sourire. Sans être goutteux, il avait les pieds si sensibles, il marchait si difficilement, qu'il gardait des souliers en veau d'Orléans par toutes les saisons. Il trouvait la mode des pantalons peu convenable pour un prêtre, et se montrait toujours vêtu de gros bas en laine noire tricotée par sa gouvernante et d'une culotte de drap. Il ne sortait point en soutane, mais en redingote brune, et conservait le tricorne courageusement porté dans les plus mauvais jours. Ce noble et beau vieillard, dont la figure était toujours embellie par la sérénité d'une âme sans reproche, devait avoir sur les choses et sur les hommes de cette histoire une si grande influence qu'il fallait tout d'abord remonter à la source de son autorité. Minoret recevait 3 journaux, un libéral, un ministériel, un ultra, quelques recueils périodiques et des journaux de science, dont les collections grossissaient sa bibliothèque. Les journaux, l'encyclopédiste et les livres furent un attrait pour un ancien capitaine au régiment de royal suédois, nommé Monsieur de Jordy, gentilhomme voltairien et vieux garçon, qui vivait de 1600 francs de pension et rente viagère. Après avoir lu pendant quelques jours les gazettes, par l'entremise du curé, Monsieur de Jordy jugea convenable d'aller remercier le docteur. Dès la première visite, le vieux capitaine, ancien professeur à l'école militaire, conquit les bonnes grâces du vieux médecin, qui lui rendit sa visite avec empressement. Monsieur de Jordy, petit homme, sec et maigre, mais tourmenté par le sang, quoiqu'il eût la face très pâle, vous frappait tout d'abord par son beau front à la Charles XII, au-dessus duquel il maintenait ses cheveux coupés ras comme ceux de ce roi soldat. Ses yeux bleus, qui eussent fait dire « L'amour a passé par là », mais profondément attristé, intéressé au premier regard, où s'entrevoyaient des souvenirs, sur lesquels il gardait d'ailleurs un si profond secret que jamais ses vieux amis ne surprirent ni une allusion à sa vie passée, ni une de ces exclamations arrachées par une similitude de catastrophe. Il cachait le douloureux mystère de son passé sous une gaieté philosophique. Mais quand il se croyait seul, ses mouvements, engourdis par une lenteur moins sénile que calculée, attestaient une pensée pénible et constante. Aussi l'abbé Chaperon l'avait-il surnommé le chrétien, sans le savoir. Allant toujours vêtu de drap bleu, son maintien un peu roide et son vêtement trahissaient les anciennes coutumes de la discipline militaire. Sa voix douce et harmonieuse remuait l'âme. Ses belles mains, la coupe de sa figure, qui rappelait celle du comte d'Artois, en montrant combien il avait été charmant dans sa jeunesse, rendaient le mystère de sa vie encore plus impénétrable. On se demandait involontairement quel malheur pouvait avoir atteint la beauté, le courage, la grâce, l'instruction et les plus précieuses qualités du cœur qui furent jadis réunies en sa personne. Monsieur de Jordy tressaillait toujours au nom de Robespierre. Il prenait beaucoup de tabac, et, chose étrange, il s'en déshabitua pour la petite Ursule, qui manifestait, à cause de cette habitude, de la répugnance pour lui. Dès qu'il put voir cette petite, le capitaine attacha sur elle de longs regards, presque passionnés. Il aimait si follement ses yeux, il s'intéressait tant à elle que cette affection rendit encore plus étroits ses liens avec le docteur, qui n'osa jamais dire à ce vieux garçon « Et vous aussi, vous avez donc perdu des enfants ?» Il est de ces êtres bons et patients comme lui, qui passe dans la vie, une pensée amère au cœur et un sourire à la fois tendre et douloureux sur les lèvres, emportant avec eux le mot de l'énigme, sans le laisser deviner, par fierté, par dédain, par vengeance peut-être, n'ayant que Dieu pour confident et pour consolateur. Monsieur de Jordy ne voyait guère à Nemours, où, comme le docteur, il était venu mourir en paix, que le curé, toujours aux ordres de ses paroissiens, et que madame de Portenduère, qui se couchait à 9 heures. Aussi, de guerre lasse, avait-il fini par se mettre au lit de bonne heure, malgré les épines qui rembourraient son chevet. Ce fut donc une bonne fortune pour le médecin comme pour le capitaine que de rencontrer un homme ayant vu le même monde, qui parlait la même langue, avec lequel on pouvait échanger ses idées, et qui se couchait tard. Une fois que monsieur de Jordy, l'abbé Chaperon et Minoret eurent passé une première soirée, ils y éprouvèrent tant de plaisir que le prêtre et le militaire revinrent tous les soirs à 9 heures, moment où, la petite Ursule couchée, le vieillard se trouvait libre. Et tous trois, ils veillaient jusqu'à 00h ou 01h. Bientôt, ce trio devint un quatuor. Un autre homme, à qui la vie était connue et qui devait à la pratique des affaires cette indulgence, ce savoir, cette masse d'observation, cette finesse, ce talent de conversation que le militaire, le médecin, le curé devaient à la pratique des âmes, des maladies et de l'enseignement. Le juge de paix flaira les plaisirs de ces soirées et rechercha la société du docteur. Avant d'être juge de paix à Nemours, Monsieur Bongrand avait été pendant 10 ans avoué à Melun, où il plaidait lui-même selon l'usage des villes où il n'y a pas de barreaux. Devenu veuf à l'âge de 45 ans, il se sentait encore trop actif pour ne rien faire. Il avait donc demandé la justice de paix de Nemours, vacante quelques mois avant l'installation du docteur. Le garde des Sceaux est toujours heureux de trouver des praticiens, et surtout des gens à leur aise pour exercer cette importante magistrature. Monsieur Bongrand vivait modestement à Nemours de 1500 francs de sa place et pouvait ainsi consacrer ses revenus à son fils, qui faisait son droit à Paris, tout en étudiant la procédure chez le fameux avoué d'Herville. Le père Bongrand ressemblait assez à un vieux chef de division en retraite. Il avait cette figure moins blême que blêmie, où les affaires, les mécomptes, le dégoût ont laissé leurs empreintes, ridées par la réflexion et aussi par les continuelles contractions familières aux gens obligés de ne pas tout dire. Mais elle était souvent illuminée par des sourires particuliers à ces hommes qui, tour à tour, croient tout et ne croient rien, habitués à tout voir et à tout entendre sans surprise, à pénétrer dans les abîmes que l'intérêt ouvre au fond des cœurs. Sous ses cheveux moins blancs que décolorés, rabattus en ondes sur sa tête, il montrait un front sagace dont la couleur jaune s'harmoniait aux filaments de sa maigre chevelure. Son visage ramassé lui donnait d'autant plus de ressemblance avec un renard que son nez était court et pointu. Il jaillissait de sa bouche fendue comme celle des grands parleurs des étincelles blanches qui rendaient sa conversation si pluvieuse que Goupil disait méchamment « Il faut un parapluie pour l'écouter ». Ou bien « Il pleut des jugements à la justice de paix ». Ses yeux semblaient fins derrière ses lunettes. Mais les ôtait-il, son regard émoussé paraissait niais. Quoiqu'il fût gai, presque jovial même, il se donnait un peu trop, par sa contenance, l'air d'un homme important. Il tenait presque toujours ses mains dans les poches de son pantalon, et ne les en tirait que pour raffermir ses lunettes par un mouvement presque railleur qui vous annonçait une observation fine ou quelque argument victorieux. Ses gestes, sa loquacité, ses innocentes prétentions trahissaient l'ancien avoué de province. Mais ses légers défauts n'existaient qu'à la superficie. Il les rachetait par une bonhomie acquise qu'un moraliste exact appellerait une indulgence naturelle à la supériorité. S'il avait un peu l'air d'un renard, il passait aussi pour profondément rusé, sans être improbe. Sa ruse était le jeu de la perspicacité. Mais n'appelle-t-on pas rusé les gens qui prévoient un résultat et se préservent des pièges qu'on leur a tendus? Le juge de paix aimait le whist, jeu que le capitaine, que le docteur, savait et que le curé a pris en peu de temps. Cette petite société se fit une oasis dans le salon de Minoret. Le médecin de Nemours, qui ne manquait ni d'instruction ni de savoir-vivre, et qui honorait en Minoret une des illustrations de la médecine, y eut ses entrées. Mais ses occupations, ses fatigues, qui l'obligeaient à se coucher tôt pour se lever de bonne heure, l'empêchèrent d'être aussi assidu que le furent les trois amis du docteur. La réunion de ces cinq personnes supérieures, les seules qui, dans Nemours, eussent des connaissances assez universelles pour se comprendre, explique la répulsion du vieux Minoret pour ses héritiers. S'il devait leur laisser sa fortune, il ne pouvait guère les admettre dans sa société. Soit que le maître de poste, le greffier et le percepteur eussent compris cette nuance, soit qu'ils fussent rassurés par la loyauté, par les bienfaits de leur oncle, ils cessèrent, à son grand contentement, de le voir. Ainsi, les quatre vieux joueurs de whist et de trictrac, 7 ou 8 mois après l'installation du docteur à Nemours, formèrent une société compacte, exclusive, et qui fut pour chacun d'eux comme une fraternité d'arrière-saison, inespérée, et dont les douceurs n'en furent que mieux savourées. Cette famille d'esprits choisis eut dans Ursule une enfant adoptée par chacun d'eux selon ses goûts. Le curé pensait à l'âme, le juge de paix se faisait le curateur, le militaire se promettait de devenir le précepteur. Et quant à Minoret, il était à la fois le père, la mère et le médecin. Après s'être acclimaté, le vieillard prit ses habitudes et régla sa vie comme elle se règle au fond de toutes les provinces. À cause d'Ursule, il ne recevait personne le matin. Il ne donnait jamais à dîner. Ses amis pouvaient arriver chez lui vers 6 heures du soir et y rester jusqu'à minuit. Les premiers venus trouvaient les journaux sur la table du salon et les lisaient en attendant les autres, ou quelquefois ils allaient à la rencontre du docteur s'il était à la promenade. Ses habitudes tranquilles ne furent pas seulement une nécessité de la vieillesse, elles furent aussi chez l'homme du monde un sage et profond calcul pour ne pas laisser troubler son bonheur par l'inquiète curiosité de ses héritiers, ni par le caquetage des petites villes. Il ne voulait rien concéder à cette changeante déesse, l'opinion publique, dont la tyrannie, un des malheurs de la France, allait s'établir et faire de notre pays une même province. Aussi, dès que l'enfant fut sevré et marcha, renvoya-t-il la cuisinière que sa nièce, madame Minoret-Levrault, lui avait donnée, en découvrant qu'elle instruisait la maîtresse de poste de tout ce qui se passait chez lui. La nourrice de la petite Ursule, veuve d'un pauvre ouvrier sans autre nom qu'un nom de baptême et qui venait de Bougival, avait perdu son dernier enfant à 6 mois, au moment où le docteur, qui la connaissait pour une honnête et bonne créature, la prit pour nourrice, touchée de sa détresse. Sans fortune, venue de la Bresse où sa famille était dans la misère, Antoinette Patrice, veuve de Pierre, dit de Bougival, s'attacha naturellement à Ursule, comme s'attachent les mères de lait à leurs nourrissons quand elles les gardent. Cette aveugle affection maternelle s'augmenta du dévouement domestique. Prévenue des intentions du docteur, la Bougival apprit sournoisement à faire la cuisine, devint propre, adroite, et se plia aux habitudes du vieillard. Elle eut des soins minutieux pour les meubles et les appartements. Enfin, elle fut infatigable. Non seulement le docteur voulait que sa vie privée fût murée, mais encore il avait des raisons pour dérober la connaissance de ses affaires à ses héritiers. Dès la deuxième année de son établissement, il n'eut donc plus au logis que la Bougival, sur la discrétion de laquelle il pouvait compter absolument. Et il déguisa ses véritables motifs sous la toute-puissante raison de l'économie. Au grand contentement de ses héritiers, il se fit avare. Sans patelinage, et par la seule influence de sa sollicitude et de son dévouement, la Bougival, âgée de 43 ans au moment où ce drame commence, était la gouvernante du docteur et de sa protégée, le pivot sur lequel tout roulait au logis, enfin la femme de confiance. On l'avait appelée la Bougival par l'impossibilité reconnue d'appliquer à sa personne son prénom d'Antoinette, car les noms et les figures obéissent aux lois de l'harmonie. L'avarice du docteur ne fut pas un vain mot, mais elle eut un but. À compter de 1817, il retrancha 2 journaux et cessa ses abonnements à ses recueils périodiques. Sa dépense annuelle, que tout Nemours put estimer, ne dépassa point 1 800 francs par an. Comme tous les vieillards, ses besoins en linge, chaussures ou vêtements étaient presque nuls. Tous les 6 mois, il faisait un voyage à Paris, sans doute pour toucher et placer lui-même ses revenus. En 15 ans, il ne dit pas un mot qui eût trait à ses affaires. Sa confiance en bon grain vint fort tard. Il ne s'ouvrit à lui sur ses projets qu'après la révolution de 1830. Telles étaient dans la vie du docteur les seules choses alors connues de la bourgeoisie et de ses héritiers. Quant à ses opinions politiques, comme sa maison ne payait que 100 francs d'impôts, il ne se mêlait de rien et repoussait aussi bien les souscriptions royalistes que les souscriptions libérales. Son horreur connue pour la prêtraille et son déisme aimait si peu les manifestations qu'il mit à la porte un commis voyageur envoyé par son petit-neveu Désiré Minoret-Levrault pour lui proposer un curé Meslier et les discours du général Foy. La tolérance ainsi entendue parut inexplicable aux libéraux de Nemours. Les 3 héritiers collatéraux du docteur, Minoret Levrault et sa femme, Monsieur et Madame Massin Levrault junior, Monsieur et Madame Crémière Crémière, que nous appellerons simplement Crémière, Massin et Minoret, puisque ces distinctions entre homonymes ne sont nécessaires que dans le Gâtinais. Ces trois familles, trop occupées pour créer un autre centre, se voyaient comme on se voit dans les petites villes. Le maître de poste donnait un grand dîner le jour de la naissance de son fils, un bal au carnaval, un autre au jour anniversaire de son mariage, et il invitait alors toute la bourgeoisie de Nemours. Le percepteur réunissait aussi deux fois par an ses parents et ses amis. Le greffier de la justice de paix, trop pauvre, disait-il, pour se jeter en de telles profusions, vivait petitement dans une maison située au milieu de la grand-rue, et dont une portion, le rez-de-chaussée, était louée à sa sœur, directrice de la poste aux lettres, autre bienfait du docteur. Néanmoins, pendant l'année, ces trois héritiers ou leurs femmes se rencontraient en ville, à la promenade, au marché le matin, sur les pas de leur porte, ou le dimanche après la messe, sur la place, comme en ce moment, en sorte qu'ils se voyaient tous les jours. Or, depuis 3 ans surtout, l'âge du docteur, son avarice et sa fortune autorisaient des allusions ou des propos directs relatifs à la succession qui finirent par gagner de proche en proche et par rendre également célèbres et le docteur et ses héritiers. Depuis 6 mois, il ne se passait pas de semaine que les amis ou les voisins des héritiers minorés ne leur parlassent avec une sourde envie du jour où les deux yeux du bonhomme se fermant, ses coffres s'ouvriraient. Le docteur Minoret a beau être médecin et s'entendre avec la mort, il n'y a que Dieu d'éternel, disait l'un. Bah, il nous enterrera tous, il se porte mieux que nous, répondait hypocritement l'héritier. Enfin, si ce n'est pas vous, vos enfants hériteront toujours, à moins que cette petite Ursule. Il ne lui laissera pas tout. Ursule, selon les prévisions de Madame Massin, était la bête noire des héritiers, leur épée de Damoclès. Et ce mot, bah, qui vivra verra, conclusion favorite de Madame Crémière, disait assez qu'il lui souhaitait plus de mal que de bien. Le percepteur et le greffier, pauvres en comparaison du maître de poste, avaient souvent évalué, par forme de conversation, l'héritage du docteur. En se promenant le long du canal ou sur la route, s'ils voyaient venir leur oncle, ils se regardaient d'un air piteux. « Il a sans doute gardé pour lui quelque élixir de longue vie, » disait l'un. « Il a fait un pacte avec le diable, » répondait l'autre. « Il devrait nous avantager, nous deux, car ce gros Minoret n'a besoin de rien. « Minoret a un fils qui lui mangera bien de l'argent. » « À quoi estimez-vous la fortune du docteur ?» disait le greffier au financier. « Au bout de 12 ans, 12 000 francs économisés chaque année donnent 144 000 francs, et les intérêts composés produisent au moins 100 000 francs. Mais comme il a dû, conseillé par son notaire à Paris, faire quelques bonnes affaires, et que jusqu'en 1822 il a dû placer à 8 et à 7,5 sur l'État, le bonhomme remue maintenant environ 400 000 francs, sans compter ses 14 000 livres de rente en 5%, à 116 aujourd'hui. S'il mourait demain, sans avantager Ursule, il nous laisserait donc 700 à 800 000 francs, outre sa maison et son mobilier. Eh bien, 100 000 à Minoret, 100 000 à la petite, et à chacun de nous 300. Voilà ce qui serait juste. Ah, cela nous chausserait proprement. S'il faisait cela, s'écriait Massin, je vendrais mon greffe, j'achèterais une belle propriété, je tâcherais de devenir juge à Fontainebleau, et je serais député. Moi, j'achèterais une charge d'agent de change, disait le percepteur. Malheureusement, cette petite fille qu'il a sous le bras, et le curé l'ont si bien cerné que nous ne pouvons rien sur lui. Après tout, nous sommes toujours bien certains qu'il ne laissera rien à l'Église. Chacun peut maintenant concevoir en quelle transe étaient les héritiers en voyant leur oncle allant à la messe. on a toujours assez d'esprit pour concevoir une lésion d'intérêt. L'intérêt constitue l'esprit du paysan, aussi bien que celui du diplomate. Et sur ce terrain, le plus niais en apparence serait peut-être le plus fort. Aussi ce terrible raisonnement, si la petite Ursule a le pouvoir de jeter son protecteur dans le giron de l'église, elle aura bien celui de se faire donner sa succession. Éclatait-il en lettres de feu dans l'intelligence du plus obtus des héritiers? Le maître de poste avait oublié l'énigme contenue dans la lettre de son fils pour accourir sur la place. Car si le docteur était dans l'église à lire l'ordinaire de la messe, il s'agissait de 250 000 francs à perdre. Avouons-le, la crainte des héritiers tenait au plus fort et au plus légitime des sentiments sociaux, les intérêts de famille. « Eh bien, monsieur Minoret, » dit le maire, ancien meunier devenu royaliste, un Levrault crémière. Quand le diable devint vieux, il se fit ermite. « Votre oncle est, dit-on, des nôtres ?»« Vaut mieux tard que jamais, mon cousin, » répondit le maître de poste en essayant de dissimuler sa contrariété. « Celui-là rirait-il si nous étions frustrés ? Il serait capable de marier son fils à cette damnée fille que le diable puisse entortiller de sa queue !» s'écria Crémière en serrant les poings et montrant le maire sous le porche. « À qui donc en a-t-il, le père Crémière ? » dit le boucher de Nemours, un Levrault-Levrault fils aîné. « N'est-il pas content de voir son oncle prendre le chemin du paradis ?»« Qui aurait jamais cru cela ? » dit le greffier. « Ah, il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau !» répondit le notaire, qui, voyant de loin le groupe, se détacha de sa femme en la laissant aller seule à l'église. « Voyons, monsieur Dionis, » dit Crémière en prenant le notaire par le bras, « que nous conseillez-vous de faire dans cette circonstance ?»« Je vous conseille, » dit le notaire en s'adressant aux héritiers, « de vous coucher et de vous lever à vos heures habituelles, de manger votre soupe sans la laisser refroidir, de mettre vos pieds dans vos souliers, vos chapeaux sur vos têtes, enfin de continuer votre genre de vie absolument comme si de rien n'était. « Vous n'êtes pas consolant, » dit Massin en lui jetant un regard de compère. Malgré sa petite taille et son embonpoint, malgré son visage épais et ramassé, Crémière Dionis était délié comme une soie. Pour faire fortune, il s'était associé secrètement avec Massin, à qui sans doute il indiquait les paysans gênés et les pièces de terre à dévorer. Ces deux hommes choisissaient ainsi les affaires, n'en laissaient point échapper de bonnes, et se partageaient les bénéfices de cette usure hypothécaire qui retarde, sans l'empêcher, l'action des paysans sur le sol. Aussi, moins pour Minoret le maître de poste et Crémière le receveur que pour son ami le greffier, Dionis portait-il un vif intérêt à la succession du docteur. La part de Massin devait tôt ou tard grossir les capitaux avec lesquels les deux associés opéraient dans le canton. Nous tâcherons de savoir par M. Bongrand ou par ce coup, répondit le notaire à voix basse en avertissant Massin de se tenir quoi. Mais que fais-tu donc là, Minoret ? Cria tout à coup une petite femme qui fondit sur le groupe au milieu duquel le maître de poste se voyait comme une tour. « Tu ne sais pas où est Désiré et tu restes planté sur des jambes à bavarder quand je te croyais à cheval ? Bonjour, mesdames et messieurs. » Cette petite femme maigre, pâle et blonde, vêtue d'une robe d'indienne blanche à grandes fleurs couleur chocolat, coiffée d'un bonnet brodé garni de dentelles et portant un petit châle vert sur ses plates épaules, était la maîtresse de poste qui faisait trembler les plus rudes postillons, les domestiques et les charretiers, qui tenait la caisse, les livres et menait la maison au doigt et à l'œil, selon l'expression populaire des voisins. Comme les vraies ménagères, elle n'avait aucun joyau sur elle. Elle ne donnait point, selon son expression, dans le clinquant et les colifichets. Elle s'attachait au solide, et gardait, malgré la fête, son tablier noir dans les poches duquel sonnait un trousseau de clefs. Sa voix glapissante déchirait le tympan des oreilles. En dépit du bleu tendre de ses yeux, son regard rigide offrait une visible harmonie avec les lèvres minces d'une bouche serrée, avec un front haut, bombé, très impérieux. Vif était le coup d'œil, plus vif était le geste et la parole. Zélie, obligée d'avoir de la volonté pour deux, en avait toujours eu pour trois, disait Goupil, qui fit remarquer les règnes successifs de trois jeunes postillons à tenue soignée établis par Zélie, chacun après 7 ans de service. Aussi le malicieux clerc les nommait-il Postillon 1, Postillon 2 et Postillon 3. Mais le peu d'influence de ces jeunes gens dans la maison et leur parfaite obéissance prouvaient que Zélie s'était purement et simplement intéressée à de bons sujets. « Eh bien, Zélie aime le zèle !» répondait le clerc à ceux qui lui faisaient ces observations. Cette médisance était peu vraisemblable. Depuis la naissance de son fils, nourri par elle, sans qu'on pût apercevoir par où, la maîtresse de poste ne pensa qu'à grossir sa fortune et s'adonna sans trêve à la direction de son immense établissement. Dérober une botte de paille ou quelques boisseaux d'avoine, surprendre Zélie dans les comptes les plus compliqués, était la chose impossible, quoiqu'elle écrivît comme un chat et ne connût que l'addition et la soustraction pour toute arithmétique. Elle ne se promenait que pour aller toiser ses foins, ses regains et ses avoines. Puis elle envoyait son homme à la récolte et ses postillons au bottelage en leur disant, à 100 livres près, la quantité que tel ou tel pré devait donner. Quoiqu'elle fût l'âme de ce grand, gros corps appelé Minoret Levrault, et qu'elle le menât par le bout de ce nez si bêtement relevé, elle éprouvait les transes qui, plus ou moins, agitent toujours les dompteurs de bêtes féroces. Aussi se mettait-elle constamment en colère avant lui, et les postillons savaient, aux querelles que leur faisait Minoret, quand il avait été querellé par sa femme, car la colère ricochait sur eux. La Minoret était d'ailleurs aussi habile qu'intéressée. Par toute la ville, ce mot. Où en serait Minoret sans sa femme? Se disait dans plus d'un ménage. Quand tu sauras ce qui nous arrive, répondit le maître de Nemours, tu seras toi-même hors des gonds. Eh bien, quoi? Ursule a mené le docteur Minoret à la messe. Les prunelles de Zélie Levrault se dilatèrent. Elle resta pendant un moment jaune de colère. Dit « Je veux le voir pour le croire !» et se précipita dans l'église. La messe en était à l'élévation. Favorisée par le recueillement général, la Minoret put donc regarder dans chaque rangée de chaises et de bancs en remontant le long des chapelles jusqu'à la place d'Ursule, auprès de qui elle aperçut le vieillard la tête nue. En vous souvenant des figures de Barbet-Marbois, de Boissy d'Anglas, de Morellet, d'Helvétius, de Frédéric le Grand, vous aurez aussitôt une image exacte de la tête du docteur Minoret, dont la verte vieillesse ressemblait à celle de ces personnages célèbres. Ces têtes, comme frappées au même coin, car elles se prêtent à la médaille, offrent un profil sévère et quasi puritain, une coloration froide, une raison mathématique, une certaine étroitesse dans le visage quasi pressé, des yeux fins, des bouches sérieuses, quelque chose d'aristocratique, moins dans le sentiment que dans l'habitude, plus dans les idées que dans le caractère. Tous ont des fronts hauts, mais fuyant à leur sommet, ce qui trahit une pente au matérialisme. Vous retrouverez ces principaux caractères de tête et ces airs de visage dans les portraits de tous les encyclopédistes, des orateurs de la Gironde et des hommes de ce temps dont les croyances religieuses furent à peu près nulles, qui se disent déistes et qui étaient athées. Le déiste est un athée sous bénéfice d'inventaire. Le vieux Minoret montrait donc un front de ce genre, mais sillonné de rides, et qui reprenait une sorte de naïveté par la manière dont ses cheveux d'argent, ramenés en arrière comme ceux d'une femme à sa toilette, se bouclaient en légers flocons sur son habit noir, car il était obstinément vêtu, comme dans sa jeunesse, en bas de soie noire, en souliers à boucles d'or, en culotte de pou de soie, en gilet blanc traversé par le cordon noir et en habit noir orné de la rosette rouge. Cette tête si caractérisée et dont la froide blancheur était adoucie par des tons jaunes dus à la vieillesse recevait en plein le jour d'une croisée. Au moment où la maîtresse de poste arriva, le docteur avait ses yeux bleus aux paupières rosées, aux contours attendris, levés vers l'autel. Une nouvelle conviction leur donnait une expression nouvelle. Ses lunettes marquaient dans un paroissien l'endroit où il avait quitté ses prières. Les bras croisés sur sa poitrine, ce grand vieillard sec, debout dans une attitude qui annonçait la toute-puissance de ses facultés et quelque chose d'inébranlable dans sa foi, ne cessa de contempler l'autel par un regard humide et que rajeunissait l'espérance, sans vouloir regarder la femme de son neveu, plantée presque en face de lui, comme pour lui reprocher son retour à Dieu. En voyant toutes les têtes se tourner vers elle, Zélie se hâta de sortir et revint sur la place moins précipitamment qu'elle n'était allée à l'église. Elle comptait sur cette succession, et la succession devenait problématique. Elle trouva le greffier, le percepteur et leur femme encore plus consternés qu'auparavant. Goupil avait pris plaisir à les tourmenter. « Ce n'est pas sur la place et devant toute la ville que nous pouvons parler de nos affaires, » dit la maîtresse de poste. « Venez chez moi. Vous ne saurez pas de trop, monsieur Dionis, » dit-elle au notaire. Ainsi, l'exhérédation probable des Massins, des Crémières et du maître de poste allait être la nouvelle du pays. Au moment où les héritiers et le notaire allaient traverser la place pour se rendre à la poste, le bruit de la diligence arrivant à fond de train au bureau qui se trouve à quelques pas de l'église en haut de la grand-rue fit un fracas énorme. « Tiens, je suis comme toi, Minoret, j'oublie Désiré, » dit Zélie. « Allons à son débarqué. Il est presque avocat, et c'est un peu de ses affaires qu'il s'agit. » L'arrivée d'une diligence est toujours une distraction. Mais quand elle est en retard, on s'attend à des événements. Aussi la foule se porta-t-elle devant la Duclerc. « Voilà Désiré !» fut un cri général. À la fois le tyran et le bout en train de Nemours, Désiré mettait toujours la ville en émoi par ses apparitions. Aimé de la jeunesse avec laquelle il se montrait généreux, il la stimulait par sa présence. Mais ses amusements étaient si redoutés que plus d'une famille fut très heureuse de lui voir faire ses études et son droit à Paris. Désiré Minoret, jeune homme mince, fluet et blond comme sa mère, de laquelle il avait les yeux bleus et le teint pâle, sourit par la portière à la foule et descendit lestement pour embrasser sa mère. Une légère esquisse de ce garçon prouvera combien Zélie fut flattée en le voyant. L'étudiant portait des bottes fines, un pantalon blanc d'étoffe anglaise à sous-pieds en cuir verni, une riche cravate bien mise, plus richement attachée, un joli gilet de fantaisie et, dans la poche de ce gilet, une montre plate dont la chaîne pendait. Enfin, une redingote courte en drap bleu et un chapeau gris. Mais le parvenu se trahissait dans les boutons d'or de son gilet et dans la bague portée par-dessus des gants de chevreau d'une couleur violâtre. Il avait une canne à pommes d'or ciselée. « Tu vas perdre ta montre !» lui dit sa mère en l'embrassant. « C'est fait exprès !» répondit-il en se laissant embrasser par son père. « Eh bien, cousin, vous voilà bientôt avocat ?» dit Massin. « Je prêterai serment à la rentrée, » dit-il en répondant aux saluts amicaux qui partaient de la foule. « Nous allons donc rire !» dit Goupil en lui prenant la main. Ah, te voilà, vieux singe, répondit Désiré. Tu prends encore la licence pour thèse, après ta thèse pour la licence, répliqua le clerc, humilié d'être traité si familièrement en présence de tant de monde.
Comment ? Il lui dit qu'il se taise ?
Demanda madame Crémière à son mari.
Vous savez tout ce que j'ai, Cabirolle,
cria-t-il au vieux conducteur à face violacée et bourgeonnée.
Vous ferez porter tout chez nous.
La sueur ruisselle sur tes chevaux, dit la rude Zélie à Cabirolle.
Tu n'as donc pas de bon sens pour les mener ainsi. Tu es plus bête qu'eux.
Mais monsieur Désiré voulait arriver à toute force pour vous tirer d'inquiétude.
Mais puisqu'il n'y avait point d'accident, pourquoi risquer de perdre tes chevaux ?
Reprit-elle. Les reconnaissances d'amis, les bonjours, les élans de la jeunesse autour de Désiré, tous les incidents de cette arrivée et les récits de l'accident auquel était dû le retard, prirent assez de temps pour que le troupeau des héritiers, augmenté de leurs amis, arriva sur la place à la sortie de la messe. Par un effet du hasard, qui se permet tout, Désiré vit Ursule sous le porche de la paroisse au moment où il passait, et resta stupéfait de sa beauté. Le mouvement du jeune avocat arrêta nécessairement la marche de ses parents. Obligé, en donnant le bras à son parrain, de tenir de la main droite son paroissien et de l'autre son ombrelle, Ursule déployait alors la grâce innée que les femmes gracieuses mettent à s'acquitter des choses difficiles de leur joli métier de femme. Si la pensée se révèle en tout, il est permis de dire que ce maintien exprimait une divine simplesse. Ursule était vêtue d'une robe de mousseline blanche en façon de peignoir, ornée de distance en distance de nœuds bleus. La pèlerine, bordée d'un ruban pareil, passée dans un large ourlet et attachée par des nœuds semblables à ceux de la robe, laissait apercevoir la beauté de son corsage. Son cou, d'une blancheur mate, était d'un ton charmant, mis en relief par tout ce bleu, le phare des blondes. Sa ceinture bleue à longs bouts flottants dessinait une taille plate qui paraissait flexible, une des plus séduisantes grâces de la femme. Elle portait un chapeau de paille de riz, modestement garni de rubans pareils à ceux de la robe, et dont les brides étaient nouées sous le menton, ce qui, tout en relevant l'excessive blancheur du chapeau, ne nuisait point à celle de son beau teint de blonde. De chaque côté de la figure d'Ursule, qui se coiffait naturellement elle-même à la berthe, ses cheveux fins et blonds abondaient en grosses nattes aplaties, dont les petites tresses saisissaient le regard par leurs mille bosses brillantes. Ses yeux gris, à la fois doux et fiers, étaient en harmonie avec un front bien modelé. Une teinte rose, répandue sur ses joues comme un nuage, animait sa figure régulière, sans fadeur, car la nature lui avait donné à la fois, par un rare privilège, la pureté des lignes et la physionomie. La noblesse de sa vie se trahissait dans un admirable accord entre ses traits, ses mouvements et l'expression générale de sa personne, qui pouvait servir de modèle à la confiance ou à la modestie. Sa santé, quoique brillante, n'éclatait point grossièrement, en sorte qu'elle avait l'air distinguée. Sous ses gants de couleur claire, on devinait de jolies mains. Ses pieds cambrés et minces étaient mignonnement chaussés de brodequins en peau bronzée, ornés d'une frange en soie brune. Sa ceinture bleue, gonflée par une petite montre plate et par sa bourse bleue à gland d'or, attira les regards de toutes les femmes.
« Il lui a donné une nouvelle montre !»
dit madame Crémière en serrant le bras de son mari.
« Comment ? C'est là Ursule ? »
s'écria Désiré.
« Je ne la reconnaissais pas. »«
Eh bien, mon cher oncle, vous faites événement !» dit le maître de poste en montrant toute la ville en deux haies sur le passage du vieillard.
« Chacun veut vous voir !»«
Est-ce l'abbé Chaperon mademoiselle Ursule qui vous a converti, mon oncle ?»
dit Massin avec une obséquiosité jésuitique en saluant le docteur et sa protégée.
« C'est Ursule !»
dit sèchement le vieillard en marchant toujours comme un homme importuné.
Quand même la veille, en finissant son whist avec Ursule, avec le médecin de Nemours et Bongrand, à ce mot « J'irai demain à la messe », dit par le vieillard, le juge de paix n'aurait pas répondu
« Vos héritiers ne dormiront plus ».
Il devait suffire au sagace et clairvoyant docteur d'un seul coup d'œil pour pénétrer les dispositions de ses héritiers à l'aspect de leur figure. L'irruption de Zélie dans l'église, son regard que le docteur avait saisi, cette réunion de tous les intéressés sur la place et l'expression de leurs yeux en apercevant Ursule, tout démontrait une haine fraîchement ravivée et des craintes sordides.
« C'est un faire à vous !»«
Affaire à vous, mademoiselle !» reprit madame Crémière en intervenant aussi par une humble révérence. « Un miracle ne vous coûte guère !»«
Il appartient à Dieu, madame !» répondit Ursule.
« Oh, Dieu !» s'écria Minoret Levrault. « Mon beau-père disait qu'il servait de couverture à bien des chevaux !»«
Il avait des opinions de maquignon !» dit sévèrement le docteur.
« Eh bien !» dit Minoret à sa femme et à son fils. « Vous ne venez pas saluer mon oncle ?»«
Je ne serai pas maîtresse de moi devant cette sainte Nitouche !» s'écria Zélie en emmenant son fils.
« Vous feriez bien, mon oncle, disait madame Massin, de ne pas aller à l'église sans avoir un petit bonnet de velours noir. La paroisse est bien humide.
« Bah, ma nièce, dit le bonhomme en regardant ceux qui l'accompagnaient, plus tôt je serai couché, plus tôt vous danserez. »
Il continuait toujours à marcher en entraînant Ursule et se montrait si pressé qu'on les laissa seuls.
« Pourquoi leur dites-vous des paroles si dures ? Ce n'est pas bien !» lui dit Ursule en lui remuant le bras d'une façon mutine.
« Avant qu'on m'apprête mon entrée en religion, ma haine sera la même contre les hypocrites. Je leur ai fait du bien à tous. Je ne leur ai pas demandé de reconnaissance. Mais aucun de ces gens-là ne t'a envoyé une fleur le jour de ta fête, la seule que je célèbre. »